14h30 à Paris, tout de suite Afrique Midi, présenté par Pierre Boudias. Bonjour Pierre.
Bonjour Olivier, bonjour à toutes et à tous. Et à la une de l'actualité, Fornia Simbé, premier président du Conseil de l'Histoire togolaise, le désormais ex-président de la République a prêté serment ce matin à la faveur de la réforme constitutionnelle qui fait passer le pays à un régime parlementaire et supprime l'élection présidentielle au suffrage universel direct. Autre cérémonie de prestation de serment aujourd'hui, celle du Gabonais Brice Clotaire Oligui Nguema dans le grand stade d'Angondje près de Libreville. Nous serons en direct de la capitale gabonaise dans cette édition. Journée internationale de la liberté de la presse ce 3 mai en France. Elle était célébrée sur la place Ghislaine Dupont, Claude Verlon et Camille Lepage. L'occasion de rappeler la dangerosité de la zone sahélienne pour les journalistes. Et puis Cotonou a accueilli son peloton. Dernière étape du Tour du Bénin, aujourd'hui conclue par une belle échappée. Nous retrouverons Olivier Pron depuis la ligne d'arrivée. Le Togo s'ancre donc définitivement dans la 5e République. Nouvelle étape ce matin avec la prestation de serment de Fornia Simbé pour le poste de président du Conseil. Il conservera l'essentiel du pouvoir exécutif, une fonction créée suite au changement de constitution intervenu l'année dernière. L'ancien président de la République a donc officiellement été intronisé lors d'une cérémonie à Lomé. On écoute Fornia Simbé.
Nous, Fort Fornia Simbé, président du Conseil désigné, conformément aux lois de la République, jurons solennellement de respecter et de défendre la Constitution que la République togolaise s'est librement donnée, de remplir loyalement et fidèlement notre mission de serviteur du peuple, de nous engager à consacrer toutes nos forces à la défense de la patrie et à la préservation de nos valeurs fondamentales de solidarité, du respect des droits humains, de consacrer toutes nos forces à la promotion du développement, du bien commun, de la paix et de l'unité nationale.
Le désormais président du Conseil togolais Fornia Simbé, il s'exprimait donc lors de la cérémonie de prestation de serment, sa cérémonie de prestation de serment, cérémonie qu'a suivi pour nous Peter Dogbe, correspondance depuis Lomé.
La main droite levée devant un pupitre sur lequel est posé le livre de la Constitution, Fornia Simbé prononce la formule du serment de l'article 47 de la Constitution. Le nouveau président du Conseil venait d'être désigné un peu plus tôt à l'Assemblée nationale. À l'extérieur, devant la présidence, des partisans du pouvoir ont brandi des pancartes sur lesquelles on pouvait lire « Tous pour un Togo fort » ou encore « Le Togo est fort avec fort ». Cette cérémonie de prestation de serment s'est terminée par un défilé militaire. Cet après-midi, députés et sénateurs se réunissent en congrès pour élire le nouveau président de la République pour un mandat de 4 ans, une fonction désormais honorifique. Fornia Simbé avait succédé à son père, Nyasimbé Yadema, décédé en février 2005 après 38 ans de règne. Son 4e mandat devrait prendre fin ce 3 mai. Il aura 59 ans en juin. Le pays achève ainsi sa transition vers un régime parlementaire qui supprime l'élection présidentielle au suffrage universel direct. Une réforme toujours vivement contestée par une partie de l'opposition et de la société civile. Peter Sassou Dogbe Lomé, RFI.
Et la prestation de serment de Fornia Simbé a également provoqué la colère de l'opposition ce matin, notamment du président des Forces démocratiques pour la République, Paul Dodji Apevon, dénonce une forfaiture. Les principaux partis de l'opposition qui annoncent également un meeting ce dimanche. Lui aussi va s'avancer main sur le cœur pour prêter serment cet après-midi. Le dirigeant gabonais Brice Clotaire Oligui Nguema, qui va officiellement être intronisé président de la République 3 semaines après sa large victoire à l'élection présidentielle. La cérémonie d'investiture de l'ancien putschiste se déroule en ce moment même au stade de l'Amitié à proximité de Libreville, où on va tout de suite retrouver notre correspondant Yves-Laurent Gomin. Bonjour Yves-Laurent.
Bonjour.
Plusieurs dirigeants ont effectué le déplacement pour cette circonstance.
Ah oui, ils sont très nombreux, les chefs d'État, qui sont déjà arrivés dans ce stade. Le protocole d'État n'a pas encore communiqué la liste, mais on a pu voir arriver les chefs d'État du Sénégal, de la Gambie, de la Sierra Leone, de Djibouti, de la Guinée-Conakry, Antoine Tshisekedi Tshilombo de la RDC, Sassou Nguesso du Congo, Théodore Obiang Nguema de la Guinée équatoriale. Tous ont été ovationnés. Oligui Nguema lui-même vient de faire son entrée dans le stade. Selon le programme officiel, la Cour constitutionnelle ouvrira l'audience solennelle pour recevoir le serment du chef de l'État. Oligui Nguema prononcera ensuite son tout premier discours en sa qualité de premier président de la Ve République, une république fondée durant la transition qui prend fin définitivement aujourd'hui avec cette prestation de serment. Oligui Nguema semble être pressé. Il ne tardera pas à former un nouveau gouvernement dont les premières missions seront relancer l'économie, lutter contre le chômage et la corruption. Bref, construire le Gabon digne d'envie qu'il a promis au peuple durant la campagne électorale.
Yves-Laurent Goma en direct donc depuis le stade de l'Amitié à proximité de Libreville où le dirigeant gabonais Brice Clotaire Oligui Nguema va officiellement être intronisé président de la République. Merci à vous. RFI, il est 14h35 ici à Paris. Ce samedi marque la journée internationale de la liberté de la presse en France. Elle était célébrée sur la place Ghislaine Dupont. Claude Verlon, nos confrères de RFI assassinés au Mali et Camille Lepage tuée elle en Centrafrique. L'occasion donc de rappeler que les voyants sont au rouge sur le continent africain en matière de liberté de la presse. Et notamment au Sahel ou encore au Soudan. Antoine Glazer, journaliste et écrivain français, spécialiste de l'Afrique, alerte sur les difficultés à couvrir ces zones et sur les menaces qui pèsent sur les journalistes africains.
La plupart des journalistes occidentaux qui étaient dans les capitales ont été expulsés, en particulier nos consoeurs qui étaient à Ouagadougou, Burkina Faso. Donc il ne reste plus sur place pour s'informer que des journalistes locaux africains. La plupart du temps, ils sont sous la pression de forces militaires parce que dans les trois pays de la région, le Mali, le Niger et le Burkina Faso, il y a eu des putschs. C'est une chape de plomb sur l'information. Et très souvent, nos confrères sont enlevés, disparaissent. Ça arrive pour certains d'entre eux, en particulier au Burkina Faso récemment, de les retrouver en treillis, le crâne rasé, engagés de force au nom de la mobilisation générale contre les djihadistes. Et donc, il n'y a plus réellement d'informations. Et un certain nombre d'entre eux, en plus, comme ils ne peuvent pas exercer localement, ils sont forcés de prendre l'exil. C'est vraiment une zone de non-information.
Antoine Glazer au micro de Loueka. Les 34 pays ont vu le droit des journalistes se dégrader l'année dernière sur le continent africain, selon Reporters sans frontières. Au Soudan du Sud, l'hôpital de l'ONG Médecins sans frontières dans la ville d'Olfangak, au nord du pays, a été bombardé ce matin à 4h, heure locale. La pharmacie et tout le stock de médicaments ont été détruits. Plus de 40 000 personnes pourraient être affectées, selon l'ONG, qui condamne une violation du droit humanitaire international. La presse locale rapporte que l'attaque a également fait des morts et des blessés. En Côte d'Ivoire, ils sont venus réclamer la réintégration de Tidjane Thiam sur la liste électorale. Quelques milliers de militants du PDCI, principal parti d'opposition, sont actuellement rassemblés dans un meeting à Port-Bouët en soutien au président de la formation. Tidjane Thiam, candidat désigné à la présidentielle d'octobre prochain, a été radié de la liste électorale et rendu inéligible sur décision de la justice ivoirienne. Au Niger, maintenant, deux organisations de la société civile saisissent la justice à Arlit dans le nord. Elles demandent la reprise des travaux de réaménagement du site de la Cominac. La compagnie minière d'Akouta est détenue à 59% par le groupe français Orano et à 31% par la Sopamine. Les activités de production de la Cominac ont cessé il y a plusieurs années. Des travaux de réaménagement du site ont commencé il y a maintenant 4 ans. Fin février, ils ont été suspendus. Suspension temporaire selon Orano, qui l'a justifié alors par des ingérences illégitimes et l'absence de dialogue avec les représentants de l'État du Niger. Et pour Ramar Ilatoufeg de la société civile d'Arlit, la reprise des travaux est désormais indispensable pour l'environnement.
Les organisations de la société civile d'Arlit ont saisi pour assigner à référer la Cominac qui a suspendu les travaux de réaménagement du site. Le réaménagement du site lui-même, il concerne la mine de Cominac. Il y a la verse à résidus, la nappe artificielle qui a été créée par Cominac. Ensuite, il y a les bassins, les gros trous d'aération qui risquent de s'effondrer. Le réaménagement du site, c'est une opération réglementaire. C'est prévu par le Code minier du Niger. Les opérations sont prévues aussi dans le cadre de la loi cadre de la protection de l'environnement du Niger. Donc c'est une opération qui est prévue de longue date et dont le financement est prévu de longue date. Donc on ne peut pas commencer un réaménagement, le faire à un quart, un demi ou trois quarts pour dire qu'on va le suspendre. Le réaménagement du site, c'est une opération qui doit être faite à 100%. Ne pas le faire, c'est enfreindre à la réglementation du pays. Et je pense que le minimum de choses qu'une société peut faire, c'est de respecter les lois du pays.
Un des propos recueillis par Magali Lagrange. Le suspense demeure sur le contenu d'un éventuel accord de paix entre Rwanda et République démocratique du Congo. Les deux voisins devaient soumettre hier soir leur contribution à l'avant-projet négocié notamment sous médiation américaine. Mais les deux délégations encore à l'œuvre hier n'ont toujours rien communiqué. Des critiques émergent cependant déjà contre ce deal américain qui conditionnerait des investissements assouplissement à la sécurité dans l'est du pays. Certains y voient un bradage des ressources, pas forcément selon le professeur Martin Ziakuo Lambisa de l'Université catholique du Congo. Pour lui, ce partenariat pourrait être bénéfique économiquement à la RDC.
La captation des investissements américains contribuera à économiquement, notamment, donner de l'emploi aux Congolais, et ça pourrait contribuer aussi à motiver davantage le gouvernement à assainir l'environnement des affaires en luttant de manière beaucoup plus rigoureuse, notamment contre la corruption. Tout cela pourrait contribuer à inciter le gouvernement à poursuivre ou même à intensifier les réformes structurelles pour remodeler l'État. Il est évident que nous allons en tirer profit, mais en comparant la qualité de gouvernance entre le Rwanda et la RDC, il y a risque que le Rwanda puisse capter plus d'investissements américains que le Congo, alors que la grande partie de ressources attirant les investisseurs américains se trouverait au Congo. Et c'est ça toute la question. Ça signifie que la RDC n'obtiendra peut-être pas comme elle le veut la garantie sécuritaire, mais la RDC, en proposant un deal pour sa sécurité, verrait l'administration américaine la retourner contre elle en ouvrant une fenêtre offrant assez d'opportunités au Rwanda.
Martin Ziakuo Lambisa, il était joint par Alexandra Branjon. RFI, il est 13h40 à Cotonou, la capitale béninoise, qui a accueilli son peloton aujourd'hui, la sixième et dernière étape du Tour du Bénin. C'est en effet disputé entre Tofo et Cotonou sur 105 km. Et pour une fois, c'est une échappée qui a eu gain de cause. On retrouve tout de suite notre envoyé spécial Olivier Pron. Bonjour Olivier.
Bonjour Pierre, bonjour à tous.
Alors une échappée même qui n'a rien changé au classement général cependant.
Non, le numéro final de l'Australien Zachary Mariage, Pierre, arrivé 30 secondes devant le peloton au pied de la gigantesque statue d'Amazon de Cotonou là, qui nous surplombe au moment où je vous parle en direct. Eh bien, ce numéro n'a rien changé. Il n'a pas empêché Reinhard, jamais facile à dire, Janse van Rensburg, qui a réglé le sprint derrière lui, de remporter cette 20e édition en jaune du début à la fin du tour, le Sud-Africain. Deux étapes remportées. Il était à 36 ans, clairement au-dessus du lot. Lui qui encadre pour sa fin de carrière la jeune équipe Cienolo Pro Cycling. 9 départs de tour, Tour de France ou Espagne à son actif ces 15 dernières années. Son expérience a payé dans un tour bien sympathique à suivre. Vous l'aurez compris toute la semaine. On a fait ce feuilleton dans Afrique Midi, du nord au sud du Bénin. Un tour populaire, bien organisé, dans lequel les Maliens ont étonné. Djiré Daouda termine 9e au général. Les Camerounais ont confirmé. Clovis Kamzong Abosolo brillant 5e. Et les Béninois, eux, progressaient. Ils progressent très vite. Le premier d'entre eux est 30e. Place aux femmes hein, à présent. Dans 10 minutes, départ de la course des Amazones. C'est pas tout à fait la même ambiance, mais c'est important pour le cyclisme africain de voir aussi les femmes. Elles ont toutes en point de mire les championnats du monde en septembre.
Olivier Pro en direct de Cotonou, merci à vous. Et puis de la boxe au programme également ce samedi. Martin Bakole sera de retour sur le ring contre le Nigérian Efe Ajagba, demi-finale mondiale pour déterminer le nom du challenger dans la catégorie IBF. 2 mois après son dernier combat, déjà en Arabie Saoudite, accepté à la dernière minute et perdu dès le deuxième round face à Joseph Parker. Ce nouveau défi pour Bakole est très attendu à Kinshasa, Olga Massangou.
Nous sommes tous au courant et nous le soutenons vivement.
Zalia Modesti, boxeuse amatrice congolaise qui attend de pied ferme ce combat, appelle les Congolais à soutenir leur champion et demande à Bakole de ne pas minimiser l'adversaire.
Le combat est facile quand on s'y prépare bien. J'ai confiance en lui. C'est juste qu'il ne doit pas minimiser son adversaire, qu'il ne commette plus d'erreurs parce que l'ensemble du pays le regarde.
Face au Nigérian Efe Ajagba, le Congolais Martin Bakole doit s'imposer pour se relancer et faire oublier sa dernière défaite, selon le journaliste sportif Mons Mosenjou.
Martin Bakole rêve de donner à l'Afrique francophone une première ceinture champion du monde poids lourd, la catégorie reine. Joseph Parker, c'était une faute de parcours, je peux le dire comme ça. Voilà pourquoi il avait demandé un Bakole Parker 2. Il sait que contre F.A. Jagba, il sera attendu au tournant. Il doit gagner pour crédibiliser son parcours.
Sixième chez les lourds au classement mondial de la WBA et quatrième dans la même catégorie à la WBC, Martin Bakoulé a déclaré récemment qu'il accordait une importance particulière à ce combat qui lui permettrait de se relancer dans sa marche pour décrocher la ceinture de champion du monde poids lourd. Olga Massangou Kinshasa, RFI.
Il est tout juste 12h45 en temps universel sur RFI.
Afrique Midi, Pierre Boudias.
Et nous sommes ensemble pour encore une quinzaine de minutes à suivre la semaine de Jean-Baptiste Placa, notre chroniqueur qui nous livrera son actualité africaine de la semaine. C'est forcément le Gabon où Brice Oligui-Nguema prête serment aujourd'hui qui interroge le fondateur de l'Autre Afrique. Et puis nous parlerons du futur avec Lucie Bouteloup et son invité futur. C'est le mot du jour choisi par Barbara Carlotti. Science-fiction, champ des possibles. L'autrice compositrice nous dira ce que lui évoque ses lettres chargées de sens. RFI, 12h45 en temps universel. On va tout de suite retrouver nos partenaire de Jeune Afrique. Et c'est l'attaque terroriste du 17 avril dernier au Bénin qui fait la une de Jeune Afrique cette semaine. Elle avait coûté la vie à 54 soldats. François Soudan, directeur de la rédaction, est interrogé par Catherine Potet.
Bonjour François Soudan.
Bonjour Catherine.
Cette attaque meurtrière a particulièrement choqué, traumatisé les quelques 15 millions de Béninois.
Oui, un vrai choc, hein, Catherine, dans un pays qui n'avait jamais connu un tel niveau de violence depuis la toute première incursion terroriste en 2019. Et cela dans le contexte d'une montée en puissance et en létalité des attaques en cette année 2025, avec un mode opératoire rassemblant plusieurs centaines de djihadistes motorisés. Alors, ces scènes de guerre ont pour théâtre le nord des deux départements septentrionaux de l'Alibori et de l'Atakora, et plus particulièrement la région boisée du Point Triple, là où se rejoignent les frontières du Bénin, du Burkina et du Niger. Elles mettent aux prises d'un côté les FAB, les forces armées béninoises, et de l'autre les djihadistes du JNIM, Djihad Agrali, et de sa filiale burkinabé Ansarul Islam, Catherine.
Et pour l'armée béninoise, François Soudan, faire face à la recrudescence de ces attaques djihadistes, c'est un véritable défi difficile à relever.
Jusqu'au déploiement de l'opération Mirador au début de 2022, la menace djihadiste a été assez largement sous-estimée au Bénin. Et le système de sécurité était lui-même sous-dimensionné, avec une dépense par habitant en matière de défense qui était la plus faible de la région. Alors depuis, les choses ont changé. 3000 militaires ont été déployés sur zone, 5000 autres ont été recrutés. Le budget sécurité a augmenté de 50%, ce qui a permis la multiplication de points fortifiés le long des frontières, avec utilisation de drones, d'images satellites et une assistance extérieure en matière de formation et de renseignement. Cela dit, le combat reste asymétrique, hein, avec une armée béninoise qui est contrainte de subir les assauts puisqu'elle ne peut ni agir de façon préventive au-delà de ses frontières, ni réagir en exerçant un droit de poursuite, Catherine.
Et vous parlez même, François Soudan, d'une paralysie opérationnelle de l'armée béninoise. Comment l'expliquez-vous ?
Alors, contrairement à ses voisins du Nord, hein, d'abord je pense qu'il faut le dire, le Bénin n'abrite pas ou pas encore de sanctuaires djihadistes et le nombre de recrues béninoises au sein des groupes terroristes reste pour l'instant anecdotique. La menace vient donc de l'extérieur, particulièrement de cet open space pour groupes terroristes qu'est l'est du Burkina. Le problème, c'est que les relations entre Cotonou d'une part ou Ouagadougou, Niamey de l'autre sont à ce point dégradées qu'il n'y a aucune coopération sécuritaire malgré les demandes répétées en ce sens de la part du Bénin. Non seulement il n'y a plus de coopération, mais on assiste à des accusations récurrentes de la part du général Tiani, du capitaine Traoré, à l'encontre du président Talon, au terme desquels le Bénin abriterait des bases d'entraînement destinées à déstabiliser ses voisins. Alors, aucune preuve de ces affirmations n'a jamais été fournie par les juntes, hein, lesquelles se sont contentées à l'appui de leur dire de faire diffuser sur leur télévision deux ou trois vidéos qui se sont rapidement avérées être des faits assez grossiers, au point qu'on peut se demander, Catherine, et c'est plutôt inquiétant pour le Bénin, si ces accusations et cette absence de coopération ne relèvent pas finalement d'une stratégie délibérée de la part des militaires au pouvoir à Niamey et à Ouagadougou pour servir de prétexte à leurs propres difficultés sécuritaires et masquer quelques réalités gênantes, comme le résultat de la toute dernière enquête de l'ONG britannique Conflict Armament Research, qui révèle, preuve à l'appui cette fois, que la grande majorité des armements dont disposent désormais les groupes terroristes a été pris aux armées des pays de l'AES elle-même, ce qui n'est pas le signe d'une évolution positive pour ces dernières.
le directeur de la rédaction de Jeune Afrique, François Soudan, interrogé par Catherine Potey. Le dossier de Jeune Afrique sur ses attaques terroristes au Bénin est bien sûr à retrouver dans les kiosques. RFI, nous sommes le samedi 3 mai à la une de l'actualité internationale. Volodymyr Zelensky dit ne pas vouloir jouer avec les courtes trêves proposées par Vladimir Poutine et notamment un cessez-le-feu du 8 au 10 mai. Impossible de s'entendre sur quelque chose en 3, 5 ou 7 jours selon le président ukrainien. L'armée israélienne dit s'être déployée dans le sud de la Syrie en soutien aux Druzes. Israël qui a mené plus de 20 frappes en Syrie la nuit dernière, des frappes ciblant des sites militaires à travers le pays. Et puis à Gaza, 11 morts dont 3 enfants dans une autre frappe israélienne à Ran Younes dans le sud de l'enclave. C'est ce qu'indique la défense civile, précisant que parmi les victimes, tous les membres d'une même famille élargie figurent 2 enfants de 1 an et un bébé de 1 mois. Hier déjà, l'organisation faisait état de 42 morts dans plusieurs frappes. Allez, midi 50 en temps universel, comme tous les samedis, il est l'heure pour nous de retrouver Jean-Baptiste Placa qui nous livre sa vision de l'actualité africaine de la semaine. Une semaine qui se termine aujourd'hui avec un jour de fête à Libreville où le général Brice Oligui Nguema prête serment en présence d'une quinzaine de chefs d'État africains. L'ancien putschiste va donc officiellement devenir président du Gabon après son élection le mois dernier. Ces réjouissances célèbrent à la fois le rétablissement de l'ordre constitutionnel interrompu par le coup d'État d'août 2023 et le retour du Gabon dans la grande famille continentale. Alors Jean-Baptiste, l'Afrique n'a-t-elle pas raison d'y adhérer ?
Il y a probablement quelque chose à célébrer en dehors des succès personnels du général Brice Oligui Nguema. Avec ses compagnons de poutre, il avait en 2023 mis le Gabon au banc des nations africaines qui les sommaient alors de retourner dans les casernes en rendant le pouvoir aux civils, en rétablissant l'ordre constitutionnel par des élections libres, équitables, crédibles et transparentes. La plupart de ces injonctions se sont vite évaporées. Il n'empêche, ce sont les mêmes dirigeants africains qui vont le célébrer ce jour à Libreville. Avec une telle capacité d'oubli, l'Union africaine serait peut-être plus crédible en admettant une fois pour toutes que les coups d'État ne sont qu'un mode d'accession au pouvoir comme un autre. Le général Oligui Nguema pourrait aussi inspirer d'autres aspirants putschistes.
Jean-Baptiste, en quoi consisterait donc cette inspiration ?
Vous commencez par prendre le pouvoir par les armes. Puis, une fois aux commandes de l'État et de ses moyens, vous vous constituez une clientèle politique. Vous vous présentez ensuite devant les électeurs et voilà votre situation régularisée. Alors, en costume civil impeccable, vous pourrez écumer les sommets sans que nul n'ose vous demander comment vous y êtes parvenu. Quant à votre prédécesseur qui s'est débrouillé pour être renversé, tant pis pour lui. Il mérite son sort, le vaincu. Ainsi fonctionne le club des chefs d'État. Peu importe si les coups d'État, comme prône l'Union africaine, compromettent la démocratie, la paix, la sécurité et la stabilité, ainsi que le développement des pays du continent.
Mais avec près de 95% des voix, Brice Oligui Nguema ne peut-il pas s'enorgueillir d'être réellement désiré par son peuple ?
Oui, ce score époustouflant, presque sans fraude, mériterait même de chaleureuses félicitations. Les Gabonais l'ont plébiscité, il saura mériter leur confiance. Sinon, comme tous les peuples, ils accepteront plus facilement de subir sa politique. Bien sûr, la facilité avec laquelle l'électorat se convertit à de nouveaux cultes laisse souvent songeur. Sous tous les cieux, les peuples ont une telle soif de héros que certains finissent par être victimes de leur propre crédulité, même si on n'en est pas encore là au Gabon. Mais étant donné que les célébrations ont déjà commencé, pourquoi ne pas se réjouir de ce que sur 5 nations africaines passées sous la botte de militaires putschistes depuis 2020, une au moins aura à renouer avec la normalité. Quelle chance ! Car ailleurs, tel autre putschiste, sans passer par le suffrage universel, s'apprête à s'octroyer une rallonge de 5 années de pouvoir, en plus des 4 déjà passées au palais présidentiel, en attendant d'autres prorogations si le peuple le désire. Président à vie, putschiste à bail emphytéotique, qui voudrait ne plus être désigné que comme président de la République. Tous les putschistes ne se valent décidément pas.
Jean-Baptiste, faut-il comprendre que certains putschistes sont dignes d'admiration ?
Il y en a que l'on admire pour avoir mis fin à un régime insupportable. C'est le cas de Brice Oligui Nguema, tombeur d'Ali Bongo, ou de Zine El Abidine Ben Ali qui avait renversé Habib Bourguiba en Tunisie. Cela ne présume rien de ce que sera ensuite leur propre régime. D'ailleurs, Ben Ali lui-même a mal fini. Certains prennent le pouvoir pour nettoyer les écuries et impulser une dynamique politique saine, tel Amadou Toumani Touré, qui, parce qu'il a bien conduit sa transition, reviendra par les urnes 10 ans plus tard. Autre cas emblématique, trop souvent cité ici, faute d'antidote, Jerry Rawlings au Ghana. En 3 mois, il a organisé des élections et rendu le pouvoir aux civils élus. Il reviendra cependant 15 mois plus tard pour finir d'assainir l'économie et initier en 1992 une démocratie exemplaire. Rien en commun avec les putschistes rêvant d'éternité qui craignent tant le suffrage universel.
Jean-Baptiste Placa, la semaine de Jean-Baptiste Placa est à retrouver bien sûr en intégralité sur RFI.fr. Qu'est-ce que les mots nous évoquent? Comment résonnent-ils en nous? Des amoureux de la langue française parlent d'un mot qui leur est cher à Lucie Bouteloup. C'est bien sûr un mot, une histoire. Aujourd'hui, c'est une habituée des jeux de mots. Elle a l'habitude de les chanter, qui est reçue par Lucie Bouteloup, la chanteuse Barbara Carlotti.
C'est un mot, c'est un adjectif, c'est un temps et c'est une projection.
On l'a quitté à l'occasion de la sortie d'un recueil de nouvelles. Cette fois, Barbara Carlotti revient en musique, avec un nouvel album, c'est le 7e, son titre « Chéris ton futur », une injonction qui sonne comme un pied de nez à l'actualité et à l'amorosité ambiante. Et pour cet épisode, c'est tout naturellement que cette grande optimiste a choisi un mot porteur d'élan.
Un mot, une histoire, Lucie Bouteloup.
Je vais vous parler du mot « futur ». Déjà, sa sonorité m'interpelle, il est flûté, il est petit, il y a quelque chose d'un peu étroit dans le futur tel que... Et en fait, c'est pas l'avenir, l'avenir avec son grand A qui ouvre des possibilités. Je sais pas, il y a quelque chose dans le mot futur que j'aime bien parce que je le trouve amusant. Il dresse comme ça une ligne vers l'après, voilà, vers ce qui est en train d'advenir, ce qui est possible en fait, ce qui reste à écrire. Et puis pour moi, c'est aussi la science-fiction. C'est les utopies, les dystopies, et on en fait un peu ce qu'on veut du futur. Il nous emmène aussi vers des possibilités un peu fantasques.
Il vous a d'ailleurs inspiré une chanson, et même le titre de votre album, oui. « Chéris ton futur ».
Oui, oui, je crois que c'est parce que vraiment j'aime la sonorité de ce mot. Il est un peu percussif comme ça. Il y a le fut, il y a le tur. Et puis il interroge sur notre rapport au monde, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à présent, qu'on n'a pas envie de refaire plus tard. Et c'est ça, c'est il porte nos élans, il est matière à invention, le futur.
Donc chéris ton futur et soigne bien ton style.
Alors le futur, c'est quand même un temps qu'on arrive à conjuguer assez facilement. Pas besoin d'être un as de la conjugaison.
Oui, en plus, c'est simple. Il y a une simplicité dans le mot, il y a une simplicité dans ce temps d'ailleurs. Le futur simple d'ailleurs, on dit.
Et alors ça, il y a le futur antérieur
mais
quand
le
même.
Le futur antérieur, c'est oui, mais c'est ce qu'on
j'aurais
projetait
aimé.
Avant. Il y a un peu de nostalgie aussi dans le futur, effectivement.
Mais est-ce que se projeter dans le futur, ça n'empêche pas aussi de profiter du temps présent?
Ah non, je crois pas. Moi, j'ai toujours cette sensation qu'on a un pied déjà dans le futur. Tout est momentané. Enfin, et quand on sépare le temps en 3 parties, passé, présent et futur, pour moi, c'est pas une sensation réelle. C'est-à-dire, il y a que notre esprit, en fait, qui construit ces 3 dimensions. Et on a toujours un pied dans le futur. Donc, la grande expérience de vie, c'est de se dire, OK, cet inconnu-là est génial à accueillir, en fait.
Donc allons de l'avant.
Ouais, allons de l'avant, chérissons notre futur, voilà, pour garder vivante notre capacité à désirer, parce qu'en fait c'est ça le futur, c'est aussi une forme de désir.
D'après le dictionnaire Le Robert, le mot futur est un adjectif qui détermine ce qui appartient à l'avenir. C'est aussi un nom qui désigne une partie du temps qui vient après le présent, mais aussi l'ensemble des formes d'un verbe qui exprime qu'une action ou un état sont placés dans un moment de l'avenir.
C'était un mot, une histoire.
Une chronique avec le soutien de la Délégation Générale à la Langue Française.
Et merci Lucie Bouteloup, Barbara Carlotti qui vient de sortir son 7e album « Chéris ton futur » et que vous pouvez retrouver sur Pure Radio dans le podcast de l'émission de Vive Voix présentée par Lucie Bouteloup. C'est la fin de cette édition d'Afrique Midi. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à Mickaël Goncalves qui était à la réalisation, Karine Franck à la rédaction en chef. Pierre Vallet était assistant d'édition aujourd'hui. Rendez-vous à 18h30, temps universel pour un nouveau point complet sur l'actualité africaine.
Vous souhaitez réécouter ce journal ? Rendez-vous sur internet www.rfi.fr. Tout à l'heure sur RFI.
Éco d'ici, éco d'ailleurs, Bruno Faure.
Nous vous proposons un voyage au Groenland qui, depuis le retour au pouvoir de Donald Trump, est au centre des attentions. Pour ses minerais critiques, pour les hydrocarbures de l'Arctique, mais ce territoire danois, et qui entend bien le rester, vit surtout de la pêche et développe désormais son tourisme.
Éco d'ici, éco d'ailleurs,
avec la Banque Ouest-Africaine de Développement.
Tout à l'heure à 23h10 TU sur RFI.
La marche du monde, Valérie Nivelon.
Comment les nazis sont-ils arrivés au pouvoir en 1933? Pourquoi Hitler a-t-il été nommé chancelier alors que son discours était antidémocratique, inégalitaire et haineux à l'égard des juifs? Et comment comprendre cette langue dont les nazis ont fait une arme puissante et politique?
La marche du monde, Valérie Nivelon.
À tout à l'heure, à 14h10, temps universel sur RFI.